إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour chacune de ces articulations, il incombe à l'homme de verser une aumône chaque jour où le soleil se lève. Établir l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider quelqu'un à monter sur sa monture ou à y charger ses bagages est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais en direction de la prière est une aumône. Retirer une chose nuisible de la voie publique est une aumône. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc ce hadith est le 26e mentionné par Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, dans cet épître. Dans ce hadith, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: pour chacune de ces articulations, il incombe à l'homme de verser une aumône. Et il est venu, dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, que les articulations sont du nombre de 360. Il dit donc dans ce hadith: pour chacune de ces articulations, il incombe à l'homme de verser une aumône chaque jour où le soleil se lève. C'est-à-dire que chaque jour, tout au long de sa vie, l'homme se doit de verser une aumône pour chacun de ses membres. C'est-à-dire qu'il doit verser chaque jour 360 aumônes. Ce qui fait pour une semaine 2520 aumônes qu'il incombe à chaque homme de verser. Ce chiffre peut paraître immense. Cependant, il fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son bienfait que cette aumône est générale et englobe l'ensemble des actes d'adoration. Ainsi, chaque œuvre que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'est comptée comme une aumône. Il n'est donc pas difficile pour l'homme de s'acquitter de ses aumônes. À partir du moment où toute adoration, tout acte par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'est compté comme une aumône, alors il n'y a rien de plus simple pour l'homme que d'accomplir ce qui lui incombe en termes d'œuvre et d'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il fasse en plus de cela des efforts dans les adorations surérogatoires, comme les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, et ainsi de suite, et ce afin de multiplier les aumônes et s'acquitter de son devoir qui a été mentionné dans ce hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué plusieurs voies de bien et il a mentionné quelques exemples d'aumônes desquels l'homme peut s'acquitter chaque jour. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, établir l'équité entre deux personnes est une aumône. C'est-à-dire que si deux personnes sont en discorde, deux personnes se sont disputées, alors c'est une aumône de réconcilier entre eux par la réconciliation ou alors en donnant à celui qui a été lésé son droit. Donc, le fait d'établir l'équité entre deux personnes par la réconciliation, ceci est considéré comme une aumône. Il est donc fortement recommandé pour le musulman de veiller à être une cause de réconciliation entre les gens et non pas être une source de division. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un deuxième exemple et il a dit: aider quelqu'un à monter sur sa monture, c'est-à-dire sur son moyen de transport, que ce soit un chameau, un cheval ou encore les moyens modernes parmi les moyens de transport, comme la voiture, le bus ou autre. Le fait que tu aides quelqu'un à monter sur sa monture, s'il a du mal à y prendre place, ou à y charger ses bagages, alors ceci est une aumône. Par exemple, s'il y a une personne âgée qui est en train de monter dans le bus et qui a des sacs, et que tu viens et que tu l'aides à charger ses sacs dans le bus, alors ceci est une bonne action et elle est comptée pour toi comme une aumône. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la bonne parole est une aumône. La bonne parole, qu'elle soit bonne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le tasbih, le takbir, le tahlil, comme on a vu dans le hadith précédent. Tout ceci sont considérés comme des aumônes. Ou alors, que cela concerne le droit des gens, comme le fait de prononcer des bonnes paroles à tes proches, de prononcer des bonnes paroles à tes frères, de prononcer des bonnes paroles à l'égard de ton épouse, de tes enfants, et ainsi de suite. Toutes ces paroles sont comptées pour toi comme des aumônes. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, chaque pas que tu fais en direction de la prière est une aumône. C'est-à-dire lorsque tu te rends à la mosquée et que tu y vas à pied, chaque pas que tu accomplis sur le chemin est considéré comme une aumône. Que la mosquée soit loin ou qu'elle soit proche. Et si en plus de cela, tu t'es purifié à ton domicile et que rien ne t'a fait sortir, si ce n'est le fait de te rendre à la prière, alors tu ne fais pas un pas sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par celui-ci en degré et qu'il efface également par celui-ci un de tes péchés. Donc chacun de tes pas sur le chemin de la mosquée, il t'est compté comme une aumône. Et en plus de cela, si tu remplis les conditions mentionnées dans l'autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève d'un degré et efface l'un de tes péchés. On voit donc le mérite immense de se rendre à pied pour accomplir la prière en commun. Enfin, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et retirer une chose nuisible de la voie publique est une aumône. Quelle que soit cette chose nuisible, que ce soit une embûche sur le chemin, des bouts de verre brisés, des poubelles, un objet gênant, un carton ou autre, toute chose nuisible aux musulmans et qui entrave le chemin des musulmans, le fait que tu le retires de la voie publique, alors ceci est compté pour toi comme une aumône. Donc on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué différentes œuvres de bien qui permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de nous acquitter de ces aumônes qui nous incombent quotidiennement. Et ce hadith, il renferme de nombreux bénéfices et on va en mentionner quelques-uns incha'Allah ta'ala. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation pour l'homme de s'acquitter d'une aumône quotidiennement pour chacun de ses membres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il incombe à l'homme de verser une aumône chaque jour où le soleil se lève. Ceci indique l'obligation. Et pourquoi il incombe à l'homme d'accomplir cette aumône quotidiennement? Ce car l'homme, lorsqu'il se lève le matin et qu'il est sain et en bonne santé, alors lui incombe d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a préservé dans sa vue, qu'il l'a préservé dans son ouïe, qu'il l'a préservé dans ses bras, dans ses jambes, et ainsi de suite pour tous les membres de ton cœur. Tout ceci sont des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordés. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des bienfaits, qu'est-ce qu'il nous incombe? Il nous incombe de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, elle a notamment lieu par le fait d'utiliser ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu accomplis ces aumônes mentionnées dans le hadith en venant en aide aux musulmans, en prononçant des bonnes paroles, en te rendant à pied à la mosquée, en retirant les choses nuisibles des chemins, et ainsi de suite parmi les œuvres pieuses qui sont comptées comme des aumônes, et ce afin de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Et le musulman, il se doit de faire de nombreux efforts dans cela. Car quels que soient les efforts qu'il fait, il ne pourra jamais être assez reconnaissant pour les indénombrables bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Et il se peut qu'une personne se dise, il est difficile de recenser cela. Comment je peux être sûr de m'être acquitté de ces 360 aumônes quotidiennement? Si tu veux être sûr de cela, alors sache qu'il est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala que tout ceci est compensé par l'accomplissement de deux unités de prière dans la matinée. Salat al-duha. Si tu accomplis deux unités dans la matinée, alors tu t'es acquitté de ton devoir concernant ces aumônes qui t'incombent quotidiennement. Et toutes les autres œuvres que tu accompliras en plus de cela, ce sera du surplus qui te permettra de te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on tire de cette autre version du hadith qu'il convient à l'homme d'être constant dans l'accomplissement de la prière d'al-duha, la prière de la matinée. En effet, elle compense l'ensemble de ses aumônes qu'elle incombe à l'homme d'accomplir quotidiennement. Il fait donc partie de la sunna d'être constant dans l'accomplissement de cette prière durant la matinée. Et son temps commence à partir du lever du soleil à la hauteur d'une lance à vue d'œil, c'est-à-dire environ 15 à 20 minutes après l'heure du shuruq. Et son temps termine à l'approche du zénith, c'est-à-dire environ 10 minutes avant l'heure du dhuhr. Ceci est le temps durant lequel il est légiféré d'accomplir cette prière, qui est la prière d'ad-duha. Et le minimum que tu puisses accomplir pour cette prière, ce sont deux unités. Et elle n'a pas de maximum. Il t'est donc permis de prier autant d'unités que tu le souhaites, en nombre pair, c'est-à-dire deux par deux. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le soleil n'est pas fixe. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, chaque jour où le soleil se lève, l'action et le mouvement, il a donc été attribué au soleil. C'est donc une erreur de penser que le soleil est un astre fixe qui ne se déplace pas. En effet, le Coran et la Sunna prouvent que le soleil se déplace, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans de nombreux versets, en attribuant les mouvements au soleil. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est le mérite de la réconciliation entre les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a encouragé à la réconciliation, et notamment entre les époux. Il a dit subhanahu wa ta'ala, au verset 128 de surat An-Nisa, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour eux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe ici dans ce verset que la réconciliation, c'est ce qu'il y a de meilleur lors des différends. Cependant, il est important de souligner que l'équité est de donner à chacun son droit. C'est-à-dire que si une personne a lésé une autre dans son droit, alors il lui incombe de rendre son droit à cette personne afin que la réconciliation puisse avoir lieu. Et il ne fait pas partie de l'équité d'imposer à la personne d'oublier son droit afin de se réconcilier. Ceci est contraire à l'équité. Par exemple, si deux personnes sont en indifférent, car l'un a menti sur l'autre et a propagé un mensonge à son encontre, afin que la réconciliation puisse avoir lieu, il incombe à celui-ci de réparer son erreur, de se repentir de ce mensonge et de proclamer son repentir de cela, et ce afin que la réconciliation puisse avoir lieu. Quant au fait de dire qu'il se réconcilie, alors que le premier ne s'est pas repenti de son péché et qu'il n'a pas réparé l'injustice, alors ceci ne fait pas partie de l'équité. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'encouragement pour le musulman de venir en aide à ses frères. Car lorsque tu viens en aide à l'un de tes frères, ceci est considéré pour toi comme une aumône. Que ce soit une aide semblable à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée dans le hadith, comme le fait d'aider quelqu'un à monter sur sa monture et à y charger ses bagages, ou alors une autre forme d'aide. Car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici, ce n'est qu'un exemple. Le hadith, il nous incite donc à venir en aide à nos frères musulmans, même dans les autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionnées. Et plus le besoin de ton frère est grand, plus il a besoin d'aide, plus le mérite à lui venir en aide est grand. Et plus cela lui est profitable, plus le mérite est grand également. Et il est important de souligner que lorsque l'on dit que venir en aide à son frère est une aumône, on parle bien sûr de venir en aide à lui dans le bien et la piété, mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Cependant, si une personne a besoin d'aide pour accomplir un péché, si une personne a besoin d'aide pour accomplir un acte qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne t'est pas permis de lui venir en aide. Si la chose qu'il accomplit est interdite, alors il est interdit de lui venir en aide dans cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, c'est une aumône et une bonne action de venir en aide à ton frère. Cependant, cette aide, elle doit être dans le bien et la piété. Quant au fait de l'aider dans le péché, ceci n'est pas légiféré, c'est même interdit. Cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'encouragement à prononcer des bonnes paroles. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, « Et la bonne parole est une aumône. » Il n'y a pas de doute que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu lis le Coran, chaque mot que tu prononces, ceci est compté pour toi comme une aumône. De même que les bonnes paroles que tu prononces en faveur de tes proches, que la parole soit bonne dans ses termes ou dans la manière dont tu la prononces. Tout ceci est important et compté pour toi comme une aumône. Ainsi, si tu rencontres un de tes frères et que tu lui prononces une bonne parole, en commençant par lui adresser le salam, en faisant une dua pour lui, en prenant de ses nouvelles, tout ceci sont des bonnes paroles pour lesquelles tu es récompensé et qui sont pour toi comptées comme des aumônes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité ses serviteurs à prononcer des bonnes paroles. Et il les a mis en garde contre les mauvaises paroles. Il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 53 de surat al-Isra, « Kul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna ash-shaytana yanzaghu baynahum, inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. » Et dit, c'est-à-dire au Muhammad, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de dire à ses serviteurs de prononcer des bonnes paroles, de bien s'exprimer les uns envers les autres. Et il a précisé la cause de cela, car le diable sème la discorde parmi eux. Lorsque tu prononces des mauvaises paroles à l'égard de tes frères, lorsque tu prononces des mauvaises paroles à l'égard de tes proches, alors le diable s'immisce dans ces conversations afin de semer la discorde entre vous. Et il profite de ces mauvaises paroles afin de semer la discorde et la division entre les musulmans. Et le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Donc le musulman, il doit prendre garde aux mots qu'il prononce, que ce soit à l'égard de sa famille, à l'égard de son épouse ou ses enfants, ou à l'égard de ses frères parmi les musulmans. Et il ne doit prononcer que des bonnes paroles et prendre garde à ce que le diable ne profite pas d'une de ses paroles afin de semer la discorde entre lui et ses proches. Ce qu'il est important de retenir donc, c'est que la bonne parole, de manière générale, c'est une aumône. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le mérite de se rendre à pied pour accomplir la prière et l'encouragement à assister à la prière en commun avec les musulmans. En effet, chaque pas que tu accomplis pour te rendre à la mosquée, il est compté pour toi comme une aumône. Et on tire également de ce hadith que tout pas que tu fais sur le chemin du bien et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est également considéré comme une aumône. Par exemple, les pas que tu fais pour te diriger vers un endroit où tu vas pour apprendre la science légiférée, la science du livre et de la sunna. Alors ces pas, ils sont comptés pour toi comme une aumône. Et tu es récompensé pour chacun de ces pas. Également, les pas que tu fais pour entretenir tes liens de parenté, pour visiter tes parents, pour visiter tes proches, pour visiter tes frères et sœurs. Tout cela, c'est compté pour toi comme une aumône et tu es récompensé pour chacun des pas que tu fais sur ce chemin. Donc de manière générale, tous les efforts que le musulman fait pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est compté pour lui comme une aumône. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le fait de retirer une chose nuisible de la voie publique, ceci est une aumône. Et on en déduit de cela que le fait de déposer des choses nuisibles sur la voie publique, alors ceci est un péché et une nuisance. Et il n'est pas permis pour le musulman de déposer des choses nuisibles sur la voie publique. Ceci est interdit. Tout ce qui provoque une nuisance pour les musulmans, il n'était pas permis de le déposer sur la voie publique. En effet, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait de retirer la nuisance de la voie publique comme une aumône, cela nous indique que le fait de la déposer est un péché. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et également, on déduit de cela un bénéfice important. Si le fait de retirer de la voie publique une nuisance physique, alors ceci est une aumône, alors d'autant plus, le fait d'en retirer une nuisance morale, ceci est également une aumône. Et qu'est-ce que la nuisance morale ? Le fait d'exposer aux gens le danger des innovations. Le fait d'exposer aux gens le danger des grands péchés. Le fait d'exposer aux gens les méfaits des mauvais comportements et des mauvais caractères. Le fait d'exposer cela aux gens, ceci est une manière de retirer de leur chemin des nuisances morales. Donc exposer ces choses aux gens et les mettre en garde contre celles-ci, les mettre en garde contre l'innovation et contre les gens de l'innovation, les mettre en garde contre les grands péchés et les auteurs des grands péchés, les mettre en garde contre les gens qui sèment la corruption sur terre et qui divisent entre les gens, tout ceci est une aumône et un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hadith, il est général. Il englobe aussi bien la nuisance physique que la nuisance morale, comme les gens de science l'ont mentionné, rahimahumullah ta'ala. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que toute œuvre qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les adorations et parmi les œuvres de bienfaisance envers sa créature, alors tout ceci est considéré comme une aumône. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, ce ne sont que des exemples. Et ceci nous prouve que l'aumône, elle n'est pas restreinte à l'argent. En effet, toute œuvre que le musulman accomplit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également une aumône par laquelle il se purifie, par laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il convient aux musulmans de ne mépriser aucune de ses œuvres, aussi moindre soit-elle, aussi petite soit-elle, si une œuvre est accompli sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a en celle-ci un grand bien, elle ne doit pas être négligée. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً